Extra. Bonjour. Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue toute particulière à l'église Sel de la Terre. Vous êtes merveilleux. Merci. Merci d'être là. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à chacun, à chacune. Ce matin, je vais parler d'un sujet qu'on n'aborde pas forcément beaucoup. Je vais parler que nous avons un ennemi, qu'on le veuille ou non. Nous avons un ennemi. Ouais, vas-y, tu sais, je suis tout le temps en train de me balader. Après, je fais comme ça, tu vois, je vais faire du fouet pendant le message. Clac, je m'amuse. Quand on me donne quelque chose avec un câble, je suis toujours en train de... Enfin, bref. La Bible dit, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Éphésiens 6, 12. Les amis, je suis désolé, je n'ai pas prévu de traduction. J'ai été débordé, mais... Si vous voulez le message, je vous l'envoie pour que vous puissiez éventuellement le traduire pour la communauté. Et que, voilà, d'accord. Éphésiens 6, 12, qui dit que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Une chose que ce texte nous révèle, c'est qu'en vérité, que nous le voulions pas, en tant que chrétiens, nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre le diable et les puissances des ténèbres. Et le texte nous dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre des êtres humains, mais le combat est bel et bien contre le diable et ses démons. Alors si vous prenez un temps et que vous réfléchissiez à... la plus grande difficulté que vous avez eue devant vous, à laquelle vous avez été confronté ou à laquelle vous êtes confronté, et pensez-y un moment. Et si la cause de ce problème est, à votre avis, une personne, c'est que selon la parole de Dieu, vous avez trouvé le mauvais suspect. Le diable peut bien sûr utiliser des gens, mais en vérité, c'est le diable qui est notre ennemi, pas les gens. D'accord ? Par exemple, si une église vit un tourment, vit des situations difficiles et vit une division à l'intérieur, par exemple, le diable peut utiliser des gens pour cela, mais l'ennemi, c'est le diable. D'accord ? Si l'évangile est prêché que les gens ne viennent pas au Seigneur, ce que vous voyez, ce sont des gens qui refusent le message de l'évangile, qui refuse l'appel, qui s'oppose au message de l'évangile, mais ces gens-là ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. D'accord ? Et si vous avez des difficultés dans votre marche avec Jésus, s'il y a des choses que vous-même, vous avez de la peine à surmonter, que vous avez de la peine à faire face, ou que tout d'un coup, vous vous trouvez dans une situation puis vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» Le véritable ennemi, c'est le diable, c'est pas vous. D'accord ? Ne vous blâmez pas. Le véritable ennemi, c'est le diable. Le diable, c'est notre ennemi numéro un en tant que chrétien. Et comme il est notre ennemi numéro un, il faut savoir quelle arme il utilise contre nous. Comment il nous attaque ? Comment il va s'y prendre pour chercher à nous détruire, à détruire notre famille, à détruire notre mariage? Comment cherche-t-il à conduire nos affaires vers la ruine? Et vous savez, comme moi, parfois nous luttons, et nous luttons de notre mieux, de toutes nos forces, mais malgré ça, nous perdons. Ça arrive. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 11. J'aime ce texte. Génial ce texte. Il dit ceci, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ce texte, il est extraordinaire. Il ne dit pas que Jésus combat pour nous. Hein. Ce texte dit que nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, et il est dit aussi que nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ce texte est extraordinaire de nous dire que nous avons vaincu le diable. Mais il faut savoir dans quel contexte de lutte nous parlons ici. Ce n'est pas une lutte concernant notre propre salut. Pas du tout. Parce que le diable ne peut pas nous dérober notre salut. Il nous a été acquis en Jésus-Christ. Notre salut a été établi une fois pour toutes. La lutte contre le diable est en relation avec l'évangélisation du monde. Elle est en relation avec la croissance de l'Église. Elle est en relation avec la croissance du royaume de Dieu. D'accord ? Je ne dis pas que notre salut... Il y a toujours un terme que... J'aime pas ce terme de perdre, parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas biblique. Le terme biblique, c'est abandonner. Apocalypse 2. Ce n'est pas perdre au sujet du salut. Mais voilà, je reviens à ce texte. Alors, il veut absolument arrêter l'évangélisation du monde. Il veut arrêter la croissance de l'Église. Il va arrêter la croissance du royaume de Dieu. Et pour cela, il va utiliser l'immoralité, le découragement, la dépression, le manque de finances, le péché. Et en réalité, son objectif n'est pas vraiment nous, personnellement, mais c'est de cesser l'œuvre du ministère. Vous connaissez l'œuvre du ministère? C'est un terme qui est utilisé dans Éphésiens 4, au chapitre 12. Au chapitre 11, il est parlé des dons que Jésus donne à son Église pour que cette Église grandisse, pour que cette Église se développe, pour que les saints soient équipés. Il donne des dons. Ces dons, ce sont des hommes, ce sont des femmes, certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi ils ont besoin d'être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère ? Et il veut absolument arrêter ça. Mais la parole de Dieu affirme au travers de ce texte d'Apocalypse 12, 11 que nous l'avons vaincu et il y a trois éléments à notre victoire. Tout d'abord, le sang de l'agneau. Ensuite, la parole de notre témoignage. Et ensuite, le fait de... Voilà, le fait que nous sommes prêts à renoncer à nos propres vies, même. Et ces trois ingrédients, le sang de l'agneau, la parole de notre témoignage et le renoncement à soi, l'une de ces trois choses ne changera jamais. Elle ne pourra jamais changer parce que cette chose est parfaite. Et je pense que vous l'avez tout de suite saisi, il s'agit du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, il est parfait. Il ne pourra pas changer. Le sang de l'agneau ne changera jamais. Donc le diable ne pourra jamais attaquer le sang de l'agneau. Mais il va attaquer et remettre en question les deux autres éléments. D'accord ? Le diable va essayer de vous faire croire que vous êtes beaucoup moins que ce que vous êtes vraiment en Jésus. Il va te dire... C'est incroyable, mais laisse-moi rire. T'as des prétentions de vouloir faire ceci et cela pour Jésus ? Arrête tout de suite, mon gars. T'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur. T'es certainement pas assez bon pour ça. T'es faible. Regarde, tu pêches encore. Ça t'arrive d'être déprimé. Pour un rien, tu te mets en colère. Et en réalité, le diable nous ment. Il nous dit, à cause de tous les problèmes que tu as, tu ne sers à rien. C'est ça que le diable nous dit. Mais la Bible nous dit qu'à cause de nos problèmes, Dieu aime travailler dans nos vies pour montrer, même au diable, qu'il est un père qui prend soin de ses enfants. Hein? D'accord ? Donc le diable va attaquer notre témoignage. Et pour cela, il a trois armes. Et la première, bien sûr, c'est le péché. Nous la connaissons. Le péché, c'est les choses que nous faisons mal. Et c'est aussi le fait de ne rien faire. Parce que la Bible dit, c'est Jacques qui le dit, il est terrible Jacques. Hein? Franchement, cette épître, elle est terrible. Mais Jacques dit que si nous avons l'occasion de faire le bien et que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Donc, le péché, c'est à la fois des choses mauvaises, mais à la fois de dire, à quelque part, c'est le bien qu'on ne fait pas, c'est de refuser de faire le bien. Mais à quelque part, le péché, on le connaît, hein? On le connaît, puis on sait très bien, parce que quand on commence dans nos vies, on sait très bien, on commence à dépérir spirituellement, on sait très bien qu'on sait que ça va pas bien, et on sait très bien l'impact du péché dans nos vies. Donc on arrive bien à le reconnaître. La deuxième arme, c'est l'accusation. Il est l'accusateur. Le diable ne cesse d'accuser. Même une fois, peut-être que nous avons terminé cette journée, nous l'avons commencé dans la louange avec le Seigneur. Certains l'ont commencé un petit peu plus difficilement parce qu'une partie de la ville est bouchée, mais enfin, voilà, vous avez commencé votre journée comme ça. Après, vous allez vous coucher, Seigneur, merci pour cette journée, tac. Et là, il y a quelques démons qui viennent et qui vous rappellent tout ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à ce jour. Et c'est ça, l'accusation. L'accusation, il ne va pas vous accuser sur des choses, sur votre futur, vous ne le connaissez pas, lui non plus. Il ne va pas vous accuser sur le présent, il va vous accuser sur tout ce que vous avez loupé, tout le mal, tout ce que vous n'avez pas réussi dans votre passé. Et il va venir et il va vous accuser sans cesse à cause de ça. Mais nous connaissons assez bien cette arme-là, le péché, l'accusation. Mais la troisième arme que le diable utilise, franchement, il a presque réussi à la tenir secrète. Presque. Presque. Heureusement que Dieu révèle ces choses-là. La Bible appelle cela des forteresses spirituelles. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, il est dit ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » D'accord ? Au verset 3, Paul nous donne une déclaration fondamentale. Il dit que même si nous vivons dans un monde naturel, malgré cela, nous ne combattons pas dans un monde naturel. Nous combattons dans un domaine spirituel. Pourquoi ? Tout simplement parce que les armes que nous avons reçues ne s'appliquent pas au domaine naturel, mais elles s'appliquent au domaine surnaturel. Et c'est pour ça qu'au verset 4, il nous est dit que ces armes qui nous sont données pour détruire des forteresses. Et c'est justement là l'une des armes les moins connues, en tout cas les moins prêchées et les moins révélées de l'adversaire. Le diable contrôle le comportement des chrétiens par des forteresses. Et vous dites, mais c'est quoi ces forteresses ? Et au verset 5, Paul donne la description d'une forteresse. Il dit ceci, une forteresse est constituée de raisonnement, elle est constituée de hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu, c'est comme une barrière, une hauteur, un mur qui s'oppose à la connaissance de Dieu, à la parole de Dieu, et une forteresse est également faite de pensées qui ne sont pas obéissantes à Christ. Donc trois composants, les raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, donc la parole de Dieu, et des pensées rebelles. Trois mots-clés, raisonnement, hauteur, pensée. Si j'évoque des mots comme ça avec vous, hein, si je vous dis café, croissant, confiture, vous allez me dire petit déjeuner. Effectivement. Hein, effectivement. Mais si je vous dis raisonnement, hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pensée, vous allez me dire tôt ou tard, le domaine des pensées. Tôt ou tard, vous allez me dire ça, le domaine des pensées. Parce que c'est dans le domaine de la pensée que les raisonnements évoluent. C'est là qu'est stockée la connaissance et c'est là que les pensées résident. Et donc je crois qu'il est juste de dire que les forteresses spirituelles, elles sont bâties dans nos pensées, dans notre mentalité. Et parce que Paul écrit à l'église de Corinthe, c'est-à-dire à des chrétiens, il est également juste de dire qu'il peut y avoir des forteresses spirituelles qui sont bâties dans la vie des chrétiens. Donc nous avons vu les composants d'une forteresse, nous savons où elle se loge. La question à ce stade est de définir, plutôt de dire, mais comment on pourrait décrire une forteresse ? Quelle est la définition d'une forteresse ? Alors je vais vous en donner une. Qui est ceci. Une forteresse spirituelle est une manière de penser, une mentalité imprégnée de désespoir qui nous incite et nous conduit à accepter comme inchangeables des situations qui sont et que nous savons être contraires à la volonté de Dieu. D'accord ? Je vous le répète ? C'est bon ? Une forteresse spirituelle est une manière de penser, une mentalité imprégné de désespoir, qui nous incite et nous conduit à accepter comme inchangeables des situations qui sont et que nous savons être contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par là? Je vais vous donner un exemple. Lorsque quelqu'un nous blesse, pensez-vous que nous connaissons la volonté de Dieu, c'est-à-dire la réponse à donner selon Dieu à la blessure que nous avons reçue? Oui, évidemment. Pardonner. Nous connaissons la volonté de Dieu. C'est pardonner face à cette situation-là. On sait qu'on devrait pardonner. Je sais quelle est la volonté de Dieu, mais bien souvent, je ne peux pas, j'arrive pas à l'appliquer. La blessure, elle fait mal. Oui, elle fait mal. Et j'étais blessé profondément. Et j'arrive pas à pardonner. Alors après, je vais mal. Et je demande la prière. Je demande que les autres prient pour moi. Des gens m'imposent les mains. Je peux même suivre la relation d'aide. Et j'essaye tout ce que je peux. Mais j'arrive pas à pardonner. Et donc, j'ai un problème. J'ai une situation qui est contraire à ce que Dieu veut. Et j'arrive pas à changer. Prenez un autre cas. La Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne devrait le désunir. D'accord ? La Bible nous dit qu'un conjoint est un don de Dieu. Ok ? La Bible dit que la femme de notre jeunesse est à même de satisfaire tous les désirs de notre cœur. Nous connaissons la volonté de Dieu au sujet du mariage. Oui, nous la connaissons. Mais, il y a beaucoup de gens qui luttent dans leur couple et qui essayent d'être heureux. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Alors, ils ont un problème. Un autre exemple, nos enfants. La Bible dit que si nous entraînons, nous formons, nous instruisons nos enfants dans la voie du Seigneur, dans les voies de Dieu, même lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. La Bible dit aussi que nos enfants nous sont donnés comme une bénédiction. Qu'ils sont comme des flèches dans le carquois d'un guerrier. Nous savons cela. Nous connaissons la volonté de Dieu. Et pourtant, certains de nos enfants ont lâché. Ils se sont détournés de Jésus. Ils ont choisi une autre voie. Pourtant, nous les avons instruits dans les voies du Seigneur. Et nous essayons de les regagner. Nous prions, nous pleurons, nous plaidons auprès du Seigneur pour ça. Et puis finalement, nous devenons désespérés. Donc nous avons un problème. Je connais la volonté de Dieu et je crois à cette volonté de Dieu parce qu'elle est dans la Bible et je crois que la Bible est la parole de Dieu. Mais je suis face à une situation qui s'oppose à ce que Dieu veut et je n'arrive pas à changer. Alors j'ai un problème. Parce qu'à ce moment-là, je vais héberger en moi deux pensées. Deux réalités opposées. Alors comment je vais faire ça? Comment je vais réussir à héberger deux réalités opposées? Eh bien, c'est très simple. Je vais bâtir une hauteur dans mes pensées. C'est ça, cette fameuse hauteur de 2 Corinthiens 10. Je vais bâtir une hauteur dans ma pensée. Et ma pensée, elle va être séparée d'une telle manière que je vais avoir un espace A et un espace B. Dans l'espace A, je vais y stocker la volonté de Dieu. Je vais y stocker la parole de Dieu. Et dans l'espace B, je vais y stocker une explication qui puisse me satisfaire pour expliquer pourquoi la volonté de Dieu n'est pas applicable dans cette situation-là. Je vais avoir deux parties, et au milieu des deux parties, une hauteur qui va s'élever, une hauteur. Alors quand je lis la Bible et que j'instruis mes enfants dans les voies de Dieu, tout est bien. Quand je lis la Bible où je dis que je devrais être heureux avec mon conjoint, waouh, tout est bien. Alors je suis dans l'espace A et je dis amen. Oui, c'est juste, j'y crois. Alléluia. Yes. Mais lorsque je suis face à mes enfants ou face à mon épouse ou dans n'importe quelle autre situation négative qui me tape, si je peux dire comme ça, alors je passe de l'espace A à l'espace B. Parce qu'il y a une hauteur à la connaissance, à la parole de Dieu, une hauteur là, je deviens capable d'élaborer des raisonnements. Et je dis, oui, c'est vrai, la parole de Dieu dit ceci. Mais mes enfants, maintenant, ils sont vieux, sérieusement. Ils sont assez grands pour prendre leurs propres décisions. D'ailleurs, ils n'habitent même plus chez nous, franchement. Alors, je ne pense pas que la Bible s'applique dans le cas de cette situation-là. Qu'ai-je fait?
J'ai fait un raisonnement.
J'ai élaboré un raisonnement.
À l'inverse de la parole de Dieu.
Le diable cherche à bâtir des forteresses dans nos vies le plus tôt possible. Et dans nos vies, il y a des domaines où malheureusement nous échouons, où nous nous compromettons. Pourquoi ? Parce que nous avons bâti cette cloison dans notre pensée. On pourrait dire, mais quel est le problème dans le fait d'avoir deux parties, d'avoir une cloison en nous et d'avoir ces deux pensées ? Eh bien, selon Jacques, et c'est là le problème, c'est cet épître de Jacques. Qui c'est qui s'appelle Jacques ici ? Oui, tiens, non ? Non, ça va. Mais c'est cette épître de Jacques, elle est terrible cette épître. Il dit que la personne qui a une pensée double, elle est instable dans toutes ses voies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne, comme elle est instable, elle n'est pas persistante. Ça, c'est Jacques 1 qui dit ça, chapitre 1 de Jacques. Et au chapitre 3, Jacques nous explique comment vaincre le diable. Premièrement, en se soumettant à Dieu. Et deuxièmement, en lui résistant. Donc si on n'est pas persistant, comment on va pouvoir lui résister ? En lui résistant. Et qu'est-ce qu'il va faire alors ? Il fuira loin de nous. Seulement si nous sommes instables, un moment nous allons résister et le moment d'après nous allons abandonner. Un moment nous sommes dans l'espace A et le moment d'après nous allons vivre selon l'espace B. Et le diable ne va pas fuir. Je vais vous donner un exemple. Aussi, comment le diable agit. Combien de pasteurs, j'imagine, combien de pasteurs aimeraient voir cette ville de Genève à nouveau touchée par le Seigneur ? Hein, franchement, on en parle, mais combien on aimerait à nouveau voir cette ville touchée par le Seigneur ? Combien aimerait atteindre cette ville ? Et je suis sûr que beaucoup pourraient dire oui, mais c'est là que le diable vient et il dit comment ça ? Tu veux toucher cette ville pour Jésus ? Rappelle-moi en fait la division que tu as vécue il y a 2 ans dans l'église. Hein? Rappelle-moi. Combien? 50, 60 personnes sont parties. 63 d'après mes comptes. Hein? Tu pries, ouais. Tu prêches, ouais. Tu cites les Écritures, ouais. Tu as tenu ferme, ouais. Mais entre nous, dans ce cas-là, tu as perdu. Alors, n'essaie surtout pas de vouloir atteindre Genève pour Jésus, ça ne marchera pas. Ça, c'est comme ça qu'il va utiliser. Ou alors le diable dit, tu vas atteindre la jeunesse pour Jésus. C'est bien ça, ouais, c'est biblique. Regarde d'abord dans ta propre maison, t'as vu tes enfants? Ils ne marchent même pas avec le Seigneur. Comment tu veux atteindre la jeunesse pour Jésus? Ça ne va pas ou bien? Hein? Occupe-toi d'abord de tes propres enfants avant de vouloir... T'as des idées de grandeur, mon gars. Hein? Tu veux gagner des familles pour Christ? Ouais, c'est bien ça. Waouh, ça c'est génial. C'est biblique en plus de ça. Ouais. T'as vu ton mariage, mon gars? T'es même pas heureux. T'es même pas heureux avec ton épouse. Et jusqu'à maintenant, t'as même pas osé divorcer parce que t'es croyant. Mais dans ton cœur, c'est comme si c'était déjà fait. Arrête. Et le diable va faire comme ça. Le diable nous torture, mes amis. Le diable nous torture, vraiment. Et nous salit et nous mine, si bien qu'il va s'arranger pour que nous échouons dans un domaine où justement nous savons quelle est la volonté de Dieu. Et ensuite il nous accuse et il nous dit le reste, ça n'arrivera jamais. C'est comme ça qu'il fait. Rien n'est aussi clair dans la Bible que l'enseignement sur l'unité de l'Église. Jean 17. Jésus a demandé au Père que son Église soit unie. Et le Père a toujours entendu Jésus. Et le Père a toujours exaucé la prière de Jésus, sauf un instant, alors qu'il est sur la croix en train de donner sa vie et qu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il fallait qu'il en soit ainsi à ce moment-là. Mais sinon, toutes les prières de Jésus ont été exaucées, toutes. Donc nous savons que la prière de Jésus a été exaucée au sujet de Jean 17 sur l'unité de l'Église. Et nous regardons notre magnifique ville, l'Église protestante de Genève, Église catholique chrétienne, Église catholique romaine, Église orthodoxe, Église luthérienne, Église évangélique libre de Genève, Église baptiste, Église de réveil, Église apostolique, Armée du salut, Église d'arbistes, Église de frères, Église méthodiste, adventiste, et les pentecôtistes, les charismatiques, les ceci, les cela et cela. Franchement, nous avons un vrai problème. Nous avons un vrai problème. Nous savons bien ce que Jésus a dit. Père, qu'il soit un comme toi et moi sommes un. Ça, c'est un degré d'unité. Waouh, extraordinaire. Nous savons ce que Dieu veut. Mais nous vivons dans une réalité que nous ne pouvons pas changer, ou plutôt que nous croyons que nous ne pouvons pas changer. Et vous savez ce que ça produit ? Eh bien, au final, cela mine et détruit notre foi en l'autorité de la parole de Dieu. Waouh. Alors, que faire quand nous avons une forteresse spirituelle ? Qu'est-ce que je dois faire quand quelque chose, j'arrive pas à l'arrêter ? J'arrive pas. Je sais que Dieu veut, mais je suis désespéré. J'arrive pas, pourtant j'essaye. Alors, que faire quand je commence, par exemple, à croire que Jésus veut toucher des milliers de personnes, et puis qu'on regarde nos rencontres, et il n'y a rien qui évolue, et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout d'abord, la Bible nous dit qu'une forteresse, elle doit être renversée, elle doit être détruite. Il ne s'agit pas de la peindre, d'accord ? Il ne s'agit pas d'enjoliver, de la restaurer, de la transformer. Il faut les détruire, ok ? Mais pour les détruire, il faut savoir comment elles sont constituées. Alors, combien de pensées avons-nous à rendre captives à l'obéissance de Christ selon 2 Corinthiens 10, 5 qu'on a vu tout à l'heure ? Combien de pensées ? Toutes. Pourquoi cela ? Car bien souvent, les forteresses sont constituées de bonnes pensées. Ouais. Ces forteresses, elles ne sont pas débiles. On n'est pas en train de penser, de toute façon, la parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu, ça a été écrit par des hommes, c'est n'importe quoi. Et puis, de toute façon, nos enfants, comme ils se comportent, eh ben, ils n'ont qu'à aller en enfer, ça leur fera du bien. Mais on ne va jamais penser des choses comme ça. On n'est pas méchant, c'est absurde. Mais nous disons au contraire, oui, la Bible a raison, et puis ensuite, eh ben, Dieu sait que la volonté de Dieu soit faite. Les bonnes pensées sont dangereuses. Elles sont très dangereuses, parce qu'elles prennent la place aux meilleures pensées. Mais les meilleures pensées sont celles de Dieu. Dans Matthieu 16, 23, nous avons cette histoire de Pierre, et Jésus va reprendre Pierre. Et il va le reprendre d'une manière incroyable. Il va se tourner vers Pierre et il va dire « Arrière de moi, Satan !» Oh ! Mais qu'est-ce que Pierre a dit pour que Jésus lui parle ainsi ? Eh bien, quand vous lisez le texte, Pierre n'est pas en train d'inciter Jésus à pécher. Pierre n'est pas en train d'inciter Jésus à se détourner du Père. Pierre n'est pas en train d'inciter Jésus à faire alliance avec le diable. Pas du tout ! Pas du tout ! Jésus venait de parler qu'il allait à la croix. Et Pierre lui dit, oh non, non, surtout pas. Non, tu ne vas pas y aller. Il y a même de la compassion dans l'attitude de Pierre. Il y a même de la compassion pour Jésus. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et cette déclaration de Jésus, elle est troublante. Parce qu'en fait, il met les pensées humaines et les pensées diaboliques sur le même niveau. Toutes nos pensées doivent être captives. Et surtout les bonnes pensées. Parce que les mauvaises pensées, nous ne les voulons pas. On n'est pas fous. Vous êtes d'accord ? On ne les veut pas, les mauvaises pensées. Mais les bonnes pensées, elles ont l'air si bonnes. Franchement, même des fois, on ajoute après nos bonnes pensées, le Seigneur a dit. Je fais un petit éclat. Mais les bonnes pensées, elles sont si bonnes. Elles n'ont pas l'impression de nous faire du mal. Mais elles occuperont l'espace de meilleures pensées. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est Dieu qui dit ça, hein, que autant ses voix sont élevées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et il arrive bien souvent que, au lieu d'attendre le miracle, au lieu d'attendre l'intervention, eh ben, nous avons trouvé une bonne solution. L'autre caractéristique d'une forteresse, c'est qu'elle crée un état de pensée instable. Parce que nous devenons instables. À un moment, nous croyons à la parole de Dieu, et le moment d'après, nous disons, oui, bon, mais franchement, je ne suis pas sûr que ça va marcher dans cette situation-là. D'accord ? Je vais vous donner un témoignage. J'ai entendu ce témoignage, ça m'a vraiment touché.
Un pasteur aux États-Unis, à San Francisco, était en lutte avec une forteresse dans sa pensée, parce qu'il y avait un problème dans l'église, vraiment un problème. Et alors un jour, il priait la parole de Dieu, il s'engageait, et le lendemain, il était découragé. Et c'était toujours comme ça, un jour il priait, le jour d'après il était découragé. Et un jour, alors qu'il priait, tout d'un coup, il était entouré par un essaim de mouches. Des mouches partout autour de lui. Et alors qu'il était dans un temps justement où il priait, pas le temps où il était découragé, mais le temps où il priait, il s'est dit, mais peut-être le Seigneur veut me dire quelque chose. Et il dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Parce qu'en fait, un essaim de mouches en Californie, ce n'est pas habituel. Parce qu'il y a des cultures fruitières en Californie. Et le gouvernement américain a une méthode pour éradiquer les mouches de ces cultures fruitières. Parce que vous savez, j'apprends ça avec mon fils Anthony, mais Samuel peut vous le dire, il y a des mouches pour tout. Il y a des mouches pour la cerise, il y a des mouches pour les pommes, il y a des mouches pour... c'est un vrai cauchemar, ces mouches. Sérieusement? Donc, il y a une volonté d'éradiquer les mouches, surtout en Californie, à cause de toute cette culture fruitière qu'il y a là. Mais justement, l'histoire ne s'agit pas d'une mouche, mais de plusieurs mouches qui étaient là, un vrai saint. Et donc, il va s'adresser au Seigneur, « Tu veux me dire quelque chose ?» Puis le Seigneur lui dit, « Oui, je veux te dire quelque chose. J'aimerais que tu ailles à la bibliothèque publique, et que tu prennes un livre sur les mouches et que tu lises ce livre. » Il va à la bibliothèque, il prend ce livre, et inhabituel, hein. Moi je m'aurais dit, ça va ou bien? Mais il va prendre un livre et il va lire ça. Et tout d'un coup, il va apprendre quelque chose. Il va justement apprendre que le gouvernement américain a établi que les mouches peuvent se reproduire dès 6 heures après leur éclosion, et ceci pendant 40 jours. Intéressant, hein? Et en sachant cela, pour éradiquer une région, pour lutter contre les mouches dans une région, eh bien, il s'arrangeait que sur cette région, pendant 40 jours, jour pour jour, jour après jour, ils aspergeaient la région avec les insecticides. Et ainsi, ils arrivaient à tuer la génération présente, comme toutes les générations futures, de mouches. Et ainsi, c'était leur combat contre ces mouches. Une fois qu'il a appris ça, le Seigneur lui dit, « Maintenant, j'aimerais que tu prennes un bout de papier. Et sur ce papier, tu vas me noter tous les noms de Satan, tous les noms de l'adversaire. » Alors, il va commencer. Le diable, Lucifer, l'adversaire, le serpent ancien, l'accusateur, tout ça. Et tout d'un coup, il arrive au nom de Belzébul. Vous savez, Belzébul, c'est quand les pharisiens disent, quand Jésus chasse les démons et guérit les malades, les pharisiens l'accusent et disent, c'est au nom de Belzébul qui fait ça. Puis Jésus leur dit, ça va pas, mais... un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et Dieu lui dit à ce pasteur, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, Belzébul? Et Belzébul veut dire le seigneur des mouches. Et alors le Seigneur va lui donner une leçon. Il va dire, le diable, il est comme les mouches. Il ne pourra pas lutter longtemps et livrer bataille longtemps. Combien de jours Jésus a-t-il lutté contre le diable? Au désert, 40 jours. Et ce chiffre de 40 jours dans la Bible est à plusieurs niveaux. 40 jours d'intercession, 40 jours de jeûne, 40 jours de lutte de Jésus contre le diable. 40 jours, Moïse sur la montagne. Deux fois 40, presque. Hein? Et il dit, le diable c'est comme des mouches, parce qu'il n'a plus assez de puissance. Souvenez-vous, Jésus l'a vaincu. Hein? C'est dans Colossiens 2, où il est dit qu'il a dépouillé les puissances. Jésus l'a vaincu. Il a encore un peu de puissance, mais il n'a plus toute cette puissance. Alors voici ce qu'il fait. Eh bien, dans le premier coup qu'il vous donne, il y met toute l'énergie qu'il a. Il vous frappe de la manière la plus forte possible. Et ensuite, il vous ment en vous disant, « Ça, je peux le refaire encore et encore et toujours, et même plus. » D'accord? Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Mais nous le croyons, parce que ça fait mal. Parce que c'est puissant, le premier coup. Et au final, nous nous rendons. C'est comme si un terroriste s'emparait d'un avion avec un fusil automatique, avec une seule balle à l'intérieur, il arrive dans l'avion, bam ! Il tire, après il fait comme ça, pour que tout le monde voit le fusil, et puis après il dit, vous devez vous rendre. Mais si nous l'attaquons, Bien sûr, il va riposter avec son fusil, il va essayer de se défendre, tout ça. Mais voilà. Et c'est pour ça que le diable fait reposer sa tactique sur des forteresses. C'est pour ça. Pas sur des attaques directes comme ça, mais sur des forteresses. Il nous frappe dans des domaines là où nous sommes faibles, et ensuite il nous dit, ce que j'ai fait là, je peux le refaire, refaire, encore et encore, et même plus. Donc imaginez, je vais prendre un exemple, ça va vous parler, une église locale. Le diable a prévu, dans cette église, il y aura, je ne dis pas dans celle-ci, hein, c'est un modèle, hein, Seigneur, hein, il va y avoir une division, on va conduire une division dans cette église. Alors, comment il va faire? Alors ça se passe toujours comme ça, normalement, une division. Quelqu'un critique le pasteur, les anciens se rassemblent, ils répètent au pasteur les mensonges à son sujet, le cœur du pasteur commence à s'alourdir, il commence à baisser les bras, des gens commencent à calomnier, à discuter, et le diable va chercher à frapper le pasteur avec toutes les armes qu'il a, et au final le pasteur dit, ben voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Hein? Mais la volonté de Dieu n'est jamais une division, mes amis. Jamais! Jamais la volonté de Dieu est une croissance, pas une division. Et le pasteur devient désespéré, il baisse les bras au lieu de se tenir vers la brèche, au lieu de se présenter devant le diable, pas vis-à-vis des gens, pas vis-à-vis des anciens, pas vis-à-vis des gens qui sont fâchés contre lui, pas ça, mais contre le diable, et lui dire, cette église, elle est mon église parce que je l'ai reçue de Dieu. Et tu ne vas pas la prendre, et tu ne vas pas la diviser. Normalement. Mais je crois que des fois, le cœur de Dieu est attristé quand les gens disent « Ah, Dieu m'éprouve, je suis en train de vivre un méchant divorce. Dieu m'éprouve, mes enfants sont dans la drogue. Dieu m'éprouve, vraiment, mes affaires sont en train de faire faillite. Mais comme il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc je suis sûr que je vais apprendre quelque chose de magnifique au travers de cela. Mais mes amis, c'est comme si vous vous frappiez la tête contre le mur pour pouvoir apprécier plus tard d'arrêter. Mais c'est vrai. Vous savez déjà très bien que quand vous arrêtez, ça va vous faire du bien. Mais non. Le problème, c'est notre double pensée, ces deux espaces en nous. L'espace où nous connaissons la parole de Dieu et l'espace où nous justifions ce que nous vivons. C'est un peu long, mais j'ai bientôt fini. Mais comment c'est possible d'avoir ces deux espaces? Parce qu'il y a une cloison. Parce qu'il y a une hauteur qui a été bâtie au milieu de notre pensée. Donc, comment résoudre ça? Eh bien, il faut détruire cette hauteur. Détruire cette hauteur. Un jour, il y a un pasteur qui devait abattre un mur en ciment chez lui. Il a fait appel à un entrepreneur. Cet entrepreneur a envoyé un ouvrier, baraque, musclé, hein? Et il arrive avec ses outils, avec une grosse masse, il se présente à côté du mur, et bam, il frappe contre le mur. Et il va y mettre toutes ses forces. Il va frapper contre ce mur. Bien sûr, au premier coup, rien ne se passe. Évident, un mur en ciment, franchement. Et puis, mais il va continuer à frapper. Ça ne va pas te gêner que rien ne se passe, franchement. Boum, bam, ça tac. 5 coups, il n'y a rien qui arrive. 10 coups, rien. 20, 35 coups, rien du tout. Mais à chaque fois, le gars, il recommence. Bam, il tape contre ce mur. 37e coup, une lézarde apparaît. 38e coup, paf, le mur, ça devient comme une toile d'araignée. Vous savez, c'est les arbres. 39e coup, le mur entier commence à se craqueler. Ensuite, il pousse sa masse, il prend une petite massette, un ciseau. Poum, le mur descend, est en bas. Il savait que c'était une question de persévérance. Il savait que ce mur allait tomber. Et au moment où il a vu les craquelures apparaître, il savait que c'était bientôt la fin. Disons que le diable veut miner notre mariage. Il nous dit, de toute façon, tu ne seras jamais heureux avec ton mari ou avec ton épouse. Hein? Franchement. Ben, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose à faire, c'est de descendre cette cloison en nous pour que, d'un côté, il y a cette parole de Dieu et d'un côté, il y a ce que nous avons établi. Et par rapport à la situation que nous vivons, que ce que nous avons établi, nous disions non, ça je n'y crois plus. C'est ça que je veux croire. C'est à la parole de Dieu que je veux croire. C'est en elle que je mets ma confiance, c'est elle que je veux croire. C'est ça. Hein? Oui, Oui, mais il y a quand même le fait de dire malgré. Des fois, il y a besoin que. Tu sais, c'est comme quand on dit l'appétit vient mangeant. Hein? Des fois, il faut se mettre en route et après, ça descend. Mais voilà, voilà, descendre cette cloison, de dire d'un côté, voilà, non, je crois, bien que ce que je vis compte, bien que la parole de Dieu contredit mon vécu, je veux croire à la parole de Dieu. Je choisis la parole de Dieu. Et ensuite, je vais aller chercher dans ma boîte à outils, c'est-à-dire dans ma Bible. Je vais chercher dans ma Bible ma masse. Il est dit que la parole de Dieu est un marteau. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que dans la Bible, je vais prendre une ou des promesses qui me parlent de ce qu'est un mariage selon Dieu. D'accord? Et ensuite, je vais me présenter devant le diable et je vais lutter contre lui. Et mes amis, le coup le plus fort que vous pourrez donner contre le diable, c'est quand vous pourrez affirmer « il est écrit ». Ça, c'est le coup le plus fort. Donc, vous prenez votre masse et vous dites « Satan, voilà la parole de mon témoignage. Voilà ce que je crois. Il est écrit que celui qui trouve une femme, une épouse, trouve une bonne chose. » Bon ! Premier coup de masse. Et là, le diable vient. Il vous en envoie encore une. Et il dit, putain, t'as vu ta femme? Hein? T'as vu son caractère? Mais ça va ou bien? Écoute-moi. Là, vous prenez votre masse. Écoute-moi. Il est écrit que celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose. Boum! Puis il revient. Puis il dit, t'es aveugle ou quoi? Hein? T'as pas vu comme elle te rend misérable? Regarde comme elle te traite, t'es barjot. Tu vas pas pouvoir supporter ça longtemps. Franchement, ton mariage, il est voué à l'échec. Tu vas pas pouvoir supporter ça longtemps. Troisième masse, Satan, écoute la parole de mon témoignage. Il est écrit, je puis toute chose, absolument toute chose, même supporter mon épouse, par Jésus-Christ qui me fortifie. Boum ! Et il refrappe. Arrête, mais arrête tes conneries. Tu ne vas pas pouvoir résister longtemps. Tu vas bientôt t'abandonner à moi. Laisse tomber. C'est trop dur. Ça ne va jamais changer. Hein? Satan, écoute ceci. Il est écrit que Dieu ne me donnera jamais une épreuve que je ne puisse surmonter. Et même avec l'épreuve, il me donnera le moyen d'en sortir. Boum. Et que dit la Bible? Et bien pour finir, il va fuir. Mes amis, il y avait une famille qui a entendu ce que je vous ai partagé là. Cette famille avait un enfant. Ah oui, a toujours un enfant. Mais elle avait éduqué cet enfant, elle avait instruit cet enfant dans les voies de Dieu, vraiment. Et cette famille s'était engagée. Et ce garçon, en grandissant, malheureusement a choisi une autre voie et il s'est éloigné de Dieu. Finalement, il a renoncé à l'évangile. Et les parents étaient tellement dans la peine, mes amis, tellement, ils ont baissé les bras et c'était vraiment douloureux. Mais après avoir entendu ce que je viens de vous partager, ces gens ont dit, eh ben on va le faire. On va le faire. Alors ils ont choisi des promesses de la Bible. Et chaque matin, le papa et la maman, ensemble, ils ont confronté le diable et ses démons en disant, il est écrit. Je vous donne un exemple d'une parole comme ça. Il est écrit que celui qui croit au Seigneur Jésus, lui et sa famille, seront sauvés. Par exemple. Mes amis, rien n'est arrivé pendant 37 jours. Le 38e jour est un dimanche. Le papa et la maman étaient prêts à partir. Ils étaient dans le salon en train de rassembler leurs affaires. Le garçon est sorti de sa chambre pour demander s'il pouvait aller avec eux à l'église. Ce jour-là, il a redonné sa vie à Jésus. 3 mois plus tard, il a reçu un appel pour le ministère. Il s'est formé. Et maintenant, c'est un serviteur de Dieu. Waouh! Un changement extraordinaire, mes amis, parce qu'ils ont fait ce que la Bible nous dit de faire. Ils ont renversé une forteresse. Ils ont dit non, malgré la situation, je veux croire à ce que la parole de Dieu dit. Et ils ont confronté cette situation, ils ont confronté le diable lui-même. Ne le croyez pas, croyez en la parole de Dieu. Croyez-y et proclamez-la, appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je dirais, confessez cette parole, même sur la réalité qui peut être différente. Centrez-vous sur cette parole de Dieu. Confessez-la, parlez-la, prononcez-la. Ils ont vaincu le diable, grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, parce qu'ils ont été même prêts à renoncer à leur propre vie. Amen. Amen.